Consider the following, and some of the results you will hardly believe.
Bonjour tout le monde, bienvenue au ICF Alumni Podcast où nous nous entretenons avec un alumni d'ICEP à propos de leur expérience à l'étranger. Nous parlons de ce qu'il a fait pendant son programme, ce qu'il fait maintenant et ses projets pour l'avenir. Aujourd'hui, on parle avec Lucille Simon. Bonjour Lucille.
Bonjour.
Ça va?
Ça va très bien et toi?
Ça va bien, merci. Je suis très contente de parler avec toi aujourd'hui. Et oui. C'est intéressant parce que moi-même, je suis une alumni d'ICEP. J'ai étudié en France en 2015 à l'Université de Lille. Donc, c'était juste après toi.
D'accord.
Donc, pour commencer, est-ce que tu peux nous parler de ce que tu as étudié pendant ta licence?
Sans souci. Donc, moi, j'ai été en licence à l'Université du Havre, donc en Normandie. Et j'ai étudié la littérature, langue et civilisation étrangère, donc en anglais. Donc, j'ai étudié de l'anglais pendant 3 ans à l'Université du Havre. Et puis, après, j'ai fait le programme ICEP. Je ne sais pas si tu veux qu'on en parle tout de suite ou
oui.
Comment tu veux.
Ouais. Oui, bien sûr. Est-ce que tu peux parler de où tu as étudié, ce que tu as étudié et ton expérience en général?
Avec ICEP.
Oui, c'est ça.
Ok. Donc, pendant ma 3e année de licence à l'Université du Havre, j'ai eu la chance de participer du coup au ICEP Program qui m'a permis d'aller à Loyola University New Orleans, donc à l'Université Loyola, à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, donc aux États-Unis, pendant un semestre, donc le fall semester, qui est le premier semestre, du coup le semestre de l'automne, c'était en 2015. Donc, sur place, j'ai eu 4 cours différents parce que les programmes américains sont très différents des programmes français. Donc, on a 4 cours obligatoires et moi, j'avais pris donc de l'allemand. Étonnant parce que voilà, j'étais aux USA, mais j'ai pris de l'allemand parce que je faisais de l'allemand en France et j'aimais bien ça. Donc, c'était un peu la continuité pour découvrir un peu également comment on enseigne l'allemand et les langues étrangères aux États-Unis aussi. Ensuite, j'ai pris un cours de jazz aux USA. Donc, ce n'était pas un cours de musique où je faisais de la musique, mais c'était un cours où j'étudiais du coup le jazz aux USA de façon très sympa parce qu'on nous obligeait, on nous demandait d'aller assister à des concerts et donc du coup de faire justement de ces concerts des rapports, des devoirs par rapport à ces concerts. Donc, c'était vraiment sympa. J'ai pris un cours de littérature américaine, donc un peu avec un focus sur la littérature de la Nouvelle-Orléans. Et j'ai fait un cours féministe, donc des cours qui n'existent pas en France. C'est pour ça que j'en ai pris aussi un cours féministe sur les femmes dans la musique. Donc voilà, beaucoup de cours qu'on ne trouvait pas en France et beaucoup de cours de musique aussi et de langue en règle générale. J'avais commencé mon semestre à la base en littérature du théâtre. Alors, c'était théâtre noir américain. J'ai fait 2 semaines de ce cours-ci. Et en fait, mon niveau d'anglais était encore un peu faible parce que c'était un cours pour des masters donc aux USA. Et donc, mon niveau d'anglais était beaucoup trop faible pour ce cours qui était très difficile et pour lequel il fallait lire peut-être 200 ou 300 pages toutes les semaines. Donc, du coup, j'ai changé avec l'accord de mon université française et l'université américaine pour passer en littérature américaine débutante. Voilà, mais globalement, j'ai pris un peu les cours que je voulais parce que j'ai eu la chance que la fac française considérait que cette expérience à l'étranger était déjà une grande chance et que déjà, je reviendrais des États-Unis bilingue quasiment. Et donc, peu importait les classes que je choisisse sur place.
D'accord. Oui, c'est bien ça quand tu as des choix pour les cours.
Oui, oui, oui. Oui.
Et pourquoi est-ce que tu as choisi d'étudier à la Nouvelle-Orléans?
Ça part d'une expérience, d'un voyage en fait, d'un voyage en famille donc très personnel. En 2007, avec mes parents, on est partis pour la première fois, on a fait un très gros voyage ensemble. On est partis en Floride. pendant un mois, je crois. Et donc, on a découvert la Floride, dont je suis tombée amoureuse. Et donc, je me suis dit que je voulais revivre la même expérience, mais pas au même endroit. Donc, je voulais revivre les alligators, je voulais revivre l'humidité, le soleil. Enfin, voilà, je voulais revivre plein de choses, tout en n'étant pas au même endroit, mais en étant aux USA. Et mon père, qui est jazzman, qui est musicien, m'a dit, tu sais, si on part en vacances là-bas, la Nouvelle-Orléans, ce serait pas mal parce que voilà, il y a de la musique, il y a de l'histoire, c'est vraiment chouette. Donc, si ça te dit, pars sur la Nouvelle-Orléans, quoi. Donc, j'ai dit, bah, allez, c'est parti. Nouvelle-Orléans, ça me dit bien. Et puis en fait, dans les classements ASEP, il y a des universités qui sont plus faciles à avoir que d'autres. Donc, par exemple, les universités à New York, tout ça, c'est un petit peu compliqué parce qu'elles sont très demandées. Et donc, moi, je ne voulais pas du tout risquer à demander une université et puis, en fait, me retrouver à avoir un choix qui me plaisait moins. Et donc, je me suis dit, OK, tu veux la Nouvelle-Orléans? Eh bien, premier choix. Et puis, ben, vu que c'était une des universités moins demandées, eh ben, j'ai eu le choix directement. Donc voilà. Et puis, je crois qu'il y avait le choix avec une université à Baton Rouge. Et puis en fait non, la Nouvelle-Orléans c'était le rêve de la Nouvelle-Orléans, donc bien sûr que j'ai choisi ça.
Oui, je pense que la Nouvelle-Orléans c'est une ville comme nulle part dans le monde. Oui, c'est ça.
Complètement.
Et est-ce que tu as vraiment vu les crocodiles à Nouvelle-Orléans?
Oui, bien sûr, dans les bayous on a vu plein d'alligators, on a fait les trucs touristes, hyper touristiques, hein, mais de toute façon, il faut le faire. Tu sais, avec les bateaux, avec les moteurs d'avion, on va dans les bayous et enfin. Voilà. Donc, on a vu ce à quoi je m'attendais et ce que j'avais envie de voir.
Oui, c'est bien. Je suis contente que tu aies passé une bonne expérience là-bas. Et quel a été le souvenir le plus marquant de ton expérience?
Alors, je crois que c'est pas forcément un des plus marquants, mais c'est un des plus fous peut-être, une des expériences les plus folles. On avait un groupe d'étudiants internationaux, on était beaucoup entre étudiants internationaux, on se mélangeait assez peu avec les Américains finalement. Donc, on était un groupe avec des Latinos, des Allemands et des Anglais, je crois. Et on est parti, on n'avait que 5 jours de vacances. Et on est parti en road trip pendant 5 jours. Et on a fait Nouvelle-Orléans, Nashville, Chicago. Et on est redescendu la ville de B.B. King, je ne me rappelle plus, c'est pas Nashville, c'était dans le Tennessee. Et après, on est retourné à la Nouvelle-Orléans. Et en 5 jours, on a fait je ne sais pas combien de miles et de miles et de kilomètres de voiture pour dormir une nuit sur place à Nashville, une nuit à Chicago et puis retour Nouvelle-Orléans. Et ça, c'est incroyable. Et puis, il y a une autre expérience. Bon, je me permets d'en raconter deux. Il y a une autre expérience, c'est de faire de la voile. Alors, j'ai jamais fait sur le lac Pontchartrain. Voilà, quand on faisait de la voile, on pouvait voir des ailerons de requins, on pouvait voir des alligators, enfin, on pouvait voir plein de trucs. Et on n'avait pas du tout envie de tomber dans l'eau. Et pourtant, ça nous arrivait. On n'était pas rassurés, mais c'était vraiment une expérience incroyable.
Wow, c'est très cool. Donc, tu as beaucoup voyagé pendant ton expérience aux États-Unis?
Oui, on a fait la Floride, on a fait Pensacola, on a fait tous les États entre Washington, non, pas entre Washington, pardon, entre la Nouvelle-Orléans et Chicago. Wow. On a fait une dizaine, 10-15 États différents avec les étudiants internationaux.
Wow. Et tu as dit que tu as passé la plupart de ton temps avec des Européens ou des étudiants étrangers. C'était difficile pour toi de rencontrer des Américains?
C'était assez compliqué, oui, parce que les seules fois où moi je pouvais les voir, du coup, c'était en cours. Et à ce moment-là, il y avait quand même la barrière de la langue. Parce que, moi, j'arrivais tout juste, j'avais étudié l'anglais, mais je ne le parlais pas très bien. Et en fait, les étudiants internationaux, c'était une façon d'apprendre à parler anglais avec d'autres personnes qui ne parlent pas anglais. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de honte. Il n'y avait pas de honte. On pouvait répéter 15 fois la même chose. Si on ne se faisait pas comprendre, ça ne nous dérangeait pas de répéter 15 fois et vice-versa. Alors qu'avec un Américain, moi, j'avais toujours un peu honte de lui faire répéter 3-4 fois la même phrase parce que je ne comprenais pas. Et il y avait donc d'abord la barrière de la langue. Et puis après... en tout cas, chez les Français et beaucoup chez les Allemands aussi, on n'est pas très avenant au départ. On est un peu froid. On n'est pas très... c'est pas un peuple jovial. Par contre, les Américains sont super souriants, super avenants. Ils disent bonjour. Ils sont super... presque exubérants dans leur façon de dire bonjour. Par contre, l'amitié est très compliquée à nouer. Un amitié que nous, on va trouver sincère. Alors qu'au contraire, en France et en Allemagne, par exemple, l'amitié est compliquée à établir au début. Par contre, une fois qu'elle est là, elle est vraiment là. Et donc, en tant que Française, j'avais l'impression d'avoir des amis partout, mais vraiment partout. Et en fait, quand j'avais vraiment besoin de mes amis, ben, il n'y avait plus personne parce qu'en fait, moi, je les considérais comme mes amis, mais eux, vu que c'était dans leur nature d'être comme ça, ne me considéraient pas forcément comme une amie. Donc, il y avait cette différence aussi culturelle qui a fait qu'on était plus facilement avec des Allemands, plus facilement avec des Latinos, plus facilement avec d'autres populations.
Oui, c'est un peu triste ça, mais je comprends parce que c'était la situation opposée quand j'étais en France. Comme j'ai étudié le français et j'avais peur de faire des erreurs et des choses comme ça. Ouais.
Et tu n'as pas trouvé que les Français étaient un peu froids au début?
Oui, bien sûr. Ouais. Mais j'avais peur de parler avec eux, donc c'était un peu ma faute, mais maintenant, ça s'améliore.
Ouais.
Ouais. Donc, pourquoi est-ce que tu as choisi une telle expérience de suivre des études à l'étranger?
Avant de choisir une des études à l'étranger, j'ai surtout choisi des études aux États-Unis. Parce que les études à l'étranger, ça m'intéressait. Pour moi, c'était quelque chose à faire, quelque chose d'important. Mais je n'ai pas choisi, il faut que je fasse des études à l'étranger. En fait, pour moi, il fallait que je fasse des études aux États-Unis. Il fallait vraiment que je retourne aux États-Unis. Donc, c'était plus par choix de retourner aux États-Unis et vraiment de vivre la culture américaine que de faire des études à l'étranger, d'abord.
D'accord. Et j'imagine que la langue anglaise avait une influence aussi, oui.
Oui, évidemment. Oui, complètement, parce que j'étudiais l'anglais. Et moi, je sais que je voulais partir loin. Si ce n'était pas les États-Unis, je voulais partir loin. Je ne voulais pas aller en Angleterre. Pour moi, c'était soit l'Australie, soit les États-Unis. Je voulais vivre mon truc toute seule, mon aventure avec du décalage horaire, avec vraiment un truc loin et vraiment être complètement dépaysée. Parce qu'en Angleterre, ce n'est pas le même pays. Mais bon, c'est plus l'Europe, mais c'était l'Europe. Donc voilà, j'avais pas envie de rester en Europe, en fait.
Oui, d'accord, je comprends. D'accord, on a parlé de ton expérience ICEP aux États-Unis. Maintenant, on va parler de ce que tu fais maintenant ou ce que tu as fait après ton semestre à l'étranger. Donc, qu'est-ce que tu fais maintenant?
Alors, est-ce que je...
Ou après ton expérience.
Ouais, ok.
Ouais, dans l'ordre chronologique.
Après mon expérience, en fait, du coup, je suis rentrée en France. Je suis rentrée en France et j'ai fait une première année de master en recherche en anglais. Donc, j'ai continué dans l'anglais. C'était beaucoup de littérature, beaucoup d'histoire. Et j'ai fait de la recherche sur la littérature aborigène d'Australie, littérature jeunesse. Donc, j'ai étudié les femmes aborigènes, la littérature aborigène. Rien à voir avec ce que j'avais étudié avant, mais de toute façon, j'avais déjà étudié pas mal de trucs différents. Et puis, un jour, j'ai rencontré quelqu'un lors d'un dîner à ICEP, justement. J'ai rencontré une coordinatrice d'une université en Normandie, donc l'université de Caen, pas l'université du Havre, qui m'a dit « Mais avec ton expérience, est-ce que ça ne t'intéresserait pas de faire un master franco-américain ?» Et donc, je lui dis « Mais ça existe, ça, un master franco-américain ?» Et elle m'a dit « Bah oui, moi, je suis coordinatrice pédagogique du master franco-américain. » Et je dis « Mais attendez, mais évidemment !» Et donc après, elle m'a dit, bon, alors par contre, c'est un master de business. Donc, c'est un master, c'est du commerce international. Donc, il y a de la finance, il y a de la compta. Enfin, il y a plein de choses qui sont très mathématiques que, enfin, auxquelles moi, je n'avais jamais eu affaire. Et donc, j'ai dit, bon, bah, c'est pas grave, je postule. De toute façon, ça va être une année où je veux avoir des professeurs américains et je veux quelque chose de concret pour avoir après un job assez rapidement après mes études. Et donc, j'ai postulé. J'avais un dossier très faible par rapport à tout ce qui était finance, par rapport à tout ce qui était commerce. Je n'avais aucune notion. Sauf qu'en fait, j'étais presque bilingue en anglais et que tous les cours étaient en anglais dispensés par des professeurs américains. Et donc, en fait, cette promotion dans ce master-là, elle est très différente. Donc, il y a des gens qui sont très bons en anglais, mais qui sont très mauvais dans le reste. Et il y a des gens qui sont très bons en commerce, mais qui sont plutôt mauvais en anglais. Et donc, ils prennent un petit pourcentage de chaque pour que ça fasse qu'il y ait vraiment différents profils dans cette promotion-là. Et donc, moi, du coup, j'ai été recrutée directement parce que je leur ai donné mon CV. Ils ont été fascinés par l'expérience américaine, par ICEP. Et je n'ai même pas eu besoin de passer d'oral. J'ai été prise directement sans souci. Donc, voilà. Et puis, ensuite, j'ai postulé juste après mon master à un stage. Un stage aux États-Unis, donc une deuxième expérience américaine. C'est un jour, une de nos profs nous dit en cours, bah, écoutez, y a un stage intéressant qui est en train de s'ouvrir là. Il faut être assistant législatif du sénateur McCain aux États-Unis. Et donc, nous, on se dit, n'importe quoi, c'est quoi ce truc, c'est une arnaque, on n'y croit pas, donc personne ne postule. On se dit, c'est n'importe quoi, ça n'existe pas, c'est impossible, impossible. Et donc, la prof nous relance, elle dit, mais qu'est-ce que vous faites, quoi ? Il y a cette expérience-là, c'est l'expérience de votre vie, pourquoi vous ne postulez pas ? Et donc là, on dit, mais c'est vrai, enfin, c'est réel, quoi. Elle nous dit, mais bien sûr. Et donc, du coup, j'ai postulé. On était 4 dans ma classe à postuler. Donc, j'ai obtenu le poste donc, par rapport aux collègues de ma classe, enfin, aux camarades. Et puis après, c'était... grâce à mon anglais, parce qu'il fallait avoir fait un petit peu de politique aussi, j'en avais jamais fait non plus. Et puis en fait, quand ils m'ont entendu parler anglais, j'étais quasi bilingue. Donc pareil, ils m'ont dit, bah voilà, tu as déjà eu une expérience aux États-Unis, tu vas t'adapter très vite, tu sais déjà parler anglais, il faut savoir parler anglais, donc c'est parfait. Donc j'ai été prise. Et donc du coup, pendant 4 mois, j'étais assistante législative, non pas de John McCain, qui est décédé le jour où je suis arrivée aux États-Unis, mais de Buddy Carter, du coup, qui était un représentant de l'État de Géorgie, pour donc l'épauler dans ses tâches législatives de tous les jours et pour aussi être ambassadrice Normandie pour la paix. Donc, c'était un stage entièrement financé par la région Normandie. Donc, il y avait le logement, ça comprenait des cours de management tous les vendredis dans le Washington Center. Tous les jours, du lundi au jeudi, j'étais chez Buddy Carter pour faire assistante législative et représenter la région Normandie. Voilà, donc ça c'était incroyable, incroyable. Encore aujourd'hui, assez inimaginable quand j'y repense. Et puis après, j'ai travaillé 3 mois dans du commerce international chez Jeannette, dans une entreprise normande qui vend des madeleines. Ça ne m'a pas du tout, enfin ça ne me correspondait pas du tout parce que en fait c'était du commerce et je me suis rendu compte que je détestais ça. C'est dommage après un master commerce, mais c'est pas grave. C'était l'expérience franco-américaine qui a valu tout ça. Et puis du coup pendant ce temps-là, j'ai postulé à la Fondation Agir contre l'exclusion, donc FACE mais en Normandie, pour un poste de chargée de mission éducation. Donc, sur la Normandie. Voilà, j'ai eu un très bon contact avec le directeur qui est mon directeur aujourd'hui. C'est une super association dans laquelle on fait beaucoup de projets, donc éducation, emploi, précarité, Moi, je travaille principalement sur des projets d'éducation, donc des projets de féminisation des métiers, par exemple, féminisation des métiers du numérique. Là, on va développer le projet sur l'aéronautique, l'automobile, sur plein d'autres projets. Et beaucoup d'aide pour les collégiens et les lycéens dans leur orientation, la sensibilisation à des métiers, tout ça. Donc, quelque chose d'humain et qui a un sens pour moi, qui fait que tous les jours, j'ai envie de me lever pour quelque chose. Et pas vendre quelque chose que je n'avais pas envie de vendre, comme j'ai pu le faire dans l'entreprise précédente, qui était une superbe entreprise, mais en fait, c'est le poste clairement qui ne me correspondait pas. Voilà où j'en suis. Et donc, j'espère travailler encore quelques années dans cette association avant de voguer vers d'autres horizons. Peut-être avec un peu plus d'anglais, j'espère, parce que ça me manque beaucoup. Donc, je trouve des moyens pour parler anglais, des ICEP Alumni Program. donc voilà, mais je fais comme je peux pour parler anglais.
Oui, c'est difficile quand on a une passion pour une langue et on habite dans un autre pays où on ne peut pas trouver des opportunités pour parler. Ouais.
Tu arrives à parler un peu français, toi ou...
Oui, maintenant, parce que je fais mon master en français.
Ah,
donc,
bien.
oui, donc je parle du français, mais avant ça, pendant 3 ans, je n'ai pas parlé du tout français. Donc,
et puis, on perd vite les notions et on perd vite la langue aussi. Hein. C'est impressionnant.
Oui, c'est ça. Ouais.
L'acquisition est longue, mais la perte est rapide.
oui, c'est vrai ça. donc, j'ai l'impression que tu as étudié plein de sujets différents et que tu as eu des expériences très différentes. Est-ce que tu penses que ton expérience ICEP a influencé ton parcours académique ou professionnel?
Ça a influencé clairement le reste déjà de mes études parce que ça a vraiment marqué le fait que je voulais faire des études toujours linguistiques, mais plutôt franco-américaines, plus que anglo-saxonne, mais Angleterre, Australie, vraiment, je voulais une spécialisation américaine. Donc ça a vraiment marqué un tournant là-dedans. Après, dans le reste de mes études, forcément, parce que s'il n'y avait pas eu cette expérience ICEP, je suis certaine que je n'aurais même pas pu postuler pour le stage aux États-Unis, parce qu'on demandait vraiment quelqu'un de bilingue. Et l'université m'a apporté beaucoup de choses, m'a apporté beaucoup de méthodes, beaucoup de méthodologie aussi, de plein de choses, de linguistique, de vocabulaire. Mais ça ne m'a en aucun cas rendue bilingue parce que mes profs étaient français. Donc, on étudiait l'anglais, mais tout en parlant un peu français aussi. Donc, rien à voir avec le fait d'être baignée 24 heures sur 24 avec des étudiants qui ne parlaient pas ma langue et qui, du coup, m'obligeaient à parler anglais. Donc, ça a marqué vraiment tout le fil du reste de mes études. Et encore aujourd'hui, un étudiant sortant met environ 6-8 mois à presque un an pour trouver un job stable et un job qui va durer dans le temps. J'ai mis trois semaines, ouais, quasi un mois, 3 semaines parce qu'il y avait cette expérience justement. Cette première expérience ICEP lors de laquelle j'étais partie toute seule à 19 ans, loin de chez moi où j'avais acquis une autonomie tout ça, et puis après il y avait l'expérience législative où forcément tout ce qui est responsabilité autonomie on acquiert plein de choses différentes que nous on ne voit pas forcément de cette manière, mais que les patrons d'entreprise ou les patrons d'associations en l'occurrence vont voir. Donc, si tu as fait ça, ça veut dire que tu es autonome dans ça, ça veut dire que tu peux faire ça, même si ce sont des domaines complètement différents. Donc voilà, j'ai mis très peu de temps à trouver un job, donc encore aujourd'hui, ça me sert.
Aujourd'hui, est-ce que tu parles avec tes amis de ton programme à Loyola? Est-ce que tu es en contact avec eux?
Je suis restée pas mal de temps en contact avec des étudiants internationaux pendant 2-3 ans. Des contacts qui se sont complètement atténués avec le temps et puis la distance faisant que c'était compliqué. Mais il y a une phrase d'un étudiant brésilien qui m'a marqué et qui me marquera toujours, je pense. C'est « We are only passengers ». et we are only passengers in each other's lives. And that's what makes the experience beautiful. Et en fait, le fait que vraiment on ne soit que des gens de passage dans la vie, ce sont des relations tout aussi fortes, mais ce sont des relations qu'on ne garde pas forcément. C'est quelque chose que je ne voulais pas du tout m'avouer hein, à l'époque. Hein, quand je suis rentrée, c'est « ouais, c'est trop mes amis, il faut que je reste en contact avec eux parce que je veux faire durer l'expérience ». Et puis en fait, on se rend compte que très rapidement, on revient au monde réel, on retrouve ses amis ici aussi, et puis en fait, on perd toutes les affinités qu'on a eues sur place. Je sais qu'il y a des gens qui se parlent encore du programme là-bas. Et en fait, étonnamment, j'avais noué un contact plutôt formel avec un étudiant américain aux États-Unis, à la Nouvelle-Orléans donc, qui est maintenant professeur de français. Et donc, en fait, on s'était rencontrés à travers, ma colocataire qui le connaissait et qui m'avait dit « Ah, viens voir, il fait des cours de français, je pense qu'il aimerait bien parler français ». Et donc, du coup, on s'était rencontrés, on avait sympathisé, mais sans plus. Et il y a 8 mois, il m'a envoyé un message. Il m'a dit « Ok, je suis professeur de français. Je viens en France en janvier. Est-ce que t'es là ?» Et je dis « Bah oui, je suis là !» Et donc, bah, du coup, en fait, on s'est vus 5 ans, 6 ans après. Donc, il y a 6 mois. Parce qu'il venait emmener sa classe en France. Et donc, il venait sur Paris. Donc, moi, j'habite à 2 heures de Paris, à Honfleur. Il a fait 2 heures de route pour venir me voir avec des collègues américains. Et c'était génial. Et en fait, on a renoué des contacts comme ça qui, pour le coup, n'étaient pas noués à la Nouvelle-Orléans. Et donc, voilà, j'ai perdu les contacts que j'avais, puis j'en ai noué d'autres au fil du temps. Donc, c'est très rigolo.
Oui, c'est comme un grand réseau, ça, ouais, que tu crées à l'international. Oui, d'accord. Donc, on a parlé de ton expérience ici, on a parlé de ce que tu as fait après. Maintenant, peut-être on peut parler de l'avenir. Est-ce que tu as des projets pour l'avenir dans ta carrière ou plus d'études ou quelque chose comme ça?
Alors, y a pas mal de choses que j'aimerais faire, mais déjà dans les années à venir, donc dans les 3, 4, 5 ans à venir, j'aimerais vraiment rester en poste. J'aimerais continuer de faire ce que je fais aujourd'hui parce que ça m'apporte beaucoup, ça m'apporte un très gros réseau aussi, hein, ne le cachons pas. Et puis ça m'apporte énormément d'expérience dans plein de choses parce que c'est un poste très polyvalent où je fais à la fois du commerce, je fais à la fois de la politique où il faut aller chercher des budgets, je fais à la fois de l'éducation où je travaille directement dans les collèges, dans les établissements, en contact direct avec les élèves. Donc il y a plein de facettes différentes qui font que je peux devenir très polyvalente en apprenant au maximum de ce poste. Et d'ici quelques années, pourquoi pas passer des concours pour être chef d'établissement, donc chef d'un collège ou d'un lycée. Parce que voilà, c'est quand même un domaine qui m'appelle beaucoup. Et voilà, la plupart de ma famille est dans ce domaine-là, dans l'éducation. Et c'est quand même ancré en moi, au fond. Donc même si je l'utilise aujourd'hui, je l'utilise quand même en petite dose par rapport à ce que je pourrais faire ailleurs. Donc, pourquoi pas les concours pour être chef d'établissement, mais pour ça, il faut avoir travaillé 5 ou 6 ans minimum dans le secteur de l'éducation avant. Donc, de toute façon, il faudra que je reste quelques années en poste. Et puis, pourquoi pas, d'ici plusieurs années, mais là, peut-être plutôt une décennie, peut-être 10-12 ans, le temps des prochaines élections, pourquoi pas être maire ou mairesse, si on utilise les nouveaux mots. Donc, pourquoi pas mairesse de la ville dans laquelle j'habite, ça me plairait bien. Après, il faut du courage. Je pense qu'il faut beaucoup de courage pour se présenter, accepter d'être une personnalité publique, accepter de se déshabiller devant les gens, politiquement parlant, plein de choses. Donc, ça demande beaucoup de courage, mais j'espère l'avoir d'ici quelques années parce que c'est quelque chose qui m'intéresserait beaucoup, je pense. La politique. Donc, comme quoi, ma deuxième expérience m'a aussi beaucoup apporté parce que si je pense au mois d'il y a 5 ans, la politique, c'était niette, je n'y comprenais rien, j'avais horreur de ça et puis aujourd'hui, je vais en faire. Donc, voilà, on change.
D'accord, tu as des grands projets, c'est bien.
Ouais, j'ai beaucoup d'imagination et de rêves, donc on verra ce qui se fait. Après, je fais toujours en sorte pour faire ce que j'ai envie de faire.
Ouais, c'est bien. Et je pense que je vois 2 fils conducteurs dans tes expériences. Et pour moi, je vois l'anglais et l'éducation. Ouais. Tu penses retourner aux États-Unis pour utiliser l'anglais ou pour créer une vie là-bas ou tu veux rester en France?
Je compte retourner aux États-Unis aussi souvent que je peux, aussi souvent que j'ai des vacances, aussi souvent que j'ai envie. En revanche, je ne vivrai pas aux États-Unis. J'ai eu l'opportunité, donc à plusieurs reprises, par le biais de contacts que j'avais là-bas, par le biais même de jobs qu'on m'avait proposés. J'en avais même déjà parlé avec Michael. Hein. Il m'avait dit, Washington, c'est possible. Il y a des alumni ICEP qui ont trouvé des jobs. On peut t'aider à créer ça. Et pour plusieurs raisons, en fait, tout simplement parce que c'est pas la même vie, en fait. C'est vraiment pas du tout la même vie. C'est pas la même vie culturelle, c'est pas la même vie au niveau de la nourriture. Voilà, on est tout bêtement, on est habitué à notre nourriture, à notre façon de vivre. Je suis aussi très proche de ma famille, donc c'est vrai que ce serait très compliqué pour moi de les voir une fois par an. Donc, sauf si tout le monde venait avec moi aux États-Unis, ce dont je doute fortement, je pense que ce serait compliqué pour moi. Et puis voilà, en fait, je me suis dit, tu as vécu des expériences extraordinaires et tu as toutes les raisons de savoir pourquoi tu ne veux pas y vivre et tu n'auras aucun regret si tu n'y vis pas, c'est parce que tu sais pourquoi tu ne veux pas y vivre. Mais voilà, mais j'aime les États-Unis, mais comme aucun autre pays, j'aime les gens, j'aime tout. Mais à vivre, c'est très, très différent d'y partir en vacances, vraiment très différent.
D'accord, oui, les vacances et la vie se sont très différentes.
Oui.
Ouais. D'accord, on a presque terminé, mais peut-être on peut finir par des conseils pour d'autres alumni d'ICEP. Est-ce que tu as des mots d'encouragement ou des mots de conseil pour d'autres étudiants?
Pour des étudiants qui sont en études avec ICEP, par exemple?
Ou peut-être pour les alumni, donc les étudiants qui ont déjà fait des programmes.
Ouais. Je leur dirais de ne surtout pas négliger toutes les expériences qu'ils aient pu avoir à l'étranger, aussi bonnes ou mauvaises qu'elles soient. J'ai des amis qui ont eu des très mauvaises expériences à l'étranger et en fait, aujourd'hui, ils se rendent compte que c'est un gros plus parce que aussi mauvaise l'expérience était, c'est aujourd'hui, c'est dans leur job, dans leur vie de tous les jours, ils ressentent cette expérience comme quelque chose de positif. Et ne pas hésiter à en parler, ne pas hésiter à la mettre en avant, parce qu'on hésite toujours, on se dit ouais, bon, c'était qu'une expérience à l'étranger, c'était en gros un semestre vacances où j'étais pas en cours en France, tout ça, mais non, en fait, pas du tout, c'était une expérience humaine. Lors de laquelle on a pu rencontrer énormément de gens, d'énormément de cultures différentes. Et c'est pas parce qu'on est allé dans un seul pays qu'on a appris à connaître un seul pays. Moi, j'ai appris à connaître tellement de cultures différentes que voilà, je peux dire en fait, j'ai fait le tour du monde à la Nouvelle-Orléans et Washington aussi un peu. Donc voilà, ne jamais négliger ces expériences, toujours les mettre en avant.
Oui. D'accord, merci beaucoup pour ces mots. D'accord, je pense qu'on a terminé ce podcast. Merci beaucoup d'avoir parlé avec nous, avec moi et Michael. Et j'espère qu'on peut organiser le virtual happy hour pour les alumni en France, les alumni d'ICEP, bientôt, peut-être fin septembre.
Oui, j'ai hâte.
Oui, moi aussi. Oui, merci, Lucille. merci beaucoup.
Merci à vous. Incroyable.
Incroyable.